Bonjour à chacun. Notre sœur Laure disait tout à l'heure dans sa prière que nous apprenions à marcher à la voie du Maître, à la voie de Dieu, et que nous sachions discerner le vrai du faux. Ouais, discerner le vrai du faux. La contrefaçon est devenue aujourd'hui, a pris une place tellement considérable dans l'économie mondiale que les spécialistes estiment que ça représente environ 300 milliards d'euros à l'échelle du monde, de copier ce qui est authentique et d'en faire du faux. Je ne sais pas si certains ont l'habitude d'acheter sur Internet ou pour ceux qui ont eu la chance d'aller notamment dans des pays d'Asie, je pense à la Thaïlande, la Chine et bien d'autres, on pense acheter quelque chose qui a de la valeur, qui a du prix, qui a un objet de marque, et puis on se rend compte qu'en fait c'est de la copie. Et c'est quelque chose qui se développe à tout point de vue, qui galope, les vêtements, les chaussures, les médicaments, les jouets, et tant d'autres choses. J'ai vu qu'il y a même du vin qui est contrefait, il y a du champagne, enfin on peut trouver des tas de choses, avec tous les risques que ça comporte. Et une des définitions de la contrefaçon, c'est une reproduction ou une imitation d'un objet, d'un document, d'une œuvre, en laissant présumer que c'est authentique. Ça a l'apparence de l'original, mais ça n'en est pas, c'est faux. Et si on n'y prend pas garde, on peut facilement se faire séduire, parce que extérieurement et visiblement, ça en a tout l'aspect. Mais ce n'est pas de cette contrefaçon-là, vous en doutez bien, que je veux vous parler ce matin. C'est d'une contrefaçon, je pense, qui est encore bien plus risquée et dangereuse pour nos vies. Et je vous invite à prendre un premier texte dans Matthieu, au chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Et nous lirons dans un premier temps les versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quelle belle contrefaçon. Ça en a tout l'aspect de choses authentiques, mais ça n'est pas le cas. Et le thème de mon message ce matin, c'est la séduction des faux hommes de Dieu. La parole nous avertit sur les différents signes de la fin des temps et notamment sur l'émergence de faux hommes de Dieu. Jésus disait aussi dans Marc au chapitre 13, verset 22, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Dans Matthieu chapitre 24, verset 11, il est également dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ces avertissements, il y en a quelques-uns ici et il y en a bien d'autres dans la parole. Ces avertissements, manifestement, sont pour les chrétiens. Ils ne sont pas pour les gens qui sont perdus, qui ne connaissent pas Dieu, même si le Seigneur les attire à lui, bien évidemment. Mais vous remarquerez qu'ici, il est bien question d'essayer de séduire les élus. Les élus, ce sont ceux qui sont appelés, qui sont rachetés, qui sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et il est question de persévérance jusqu'à la fin pour être sauvés. Donc, le Seigneur avertit bien des frères et sœurs, des chrétiens authentiques, nés de nouveau, et nous avertit de la séduction qui vient sur ce monde et nous met en garde contre ces faux hommes de Dieu, ces faux prophètes qui vont s'élever et qui s'élèvent déjà dans le monde. Paul, dans les Épîtres, avertit beaucoup, que ce soit à Timothée ou aux lettres dans les Églises, et notamment dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, il dit ceci, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc le Saint-Esprit nous avertit au travers de sa parole que dans les temps de la fin, il y aura une confusion entre une apparence qui pourra être attrayante, belle, qui ressemblera à ce que peut être un homme de Dieu authentique, mais qui dans le fond et dans les fruits ne le sera pas. Et un des moyens de séduction de ces hommes, nous l'avons lu, c'est entre autres les prodiges, les miracles qui accompagnent leur message. Et Corneille nous rappelait dimanche dernier, à juste titre, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et je suis d'accord et à 100 et 200 et 300 et 500% avec ça. Je crois que Dieu donne encore son Saint-Esprit aujourd'hui. Ses promesses sont oui, amen. Il distribue les dons spirituels. Et bien évidemment, tous les aspects du Saint-Esprit ne peuvent pas être abordés dans un message. Corneille a fait un focus sur les miracles et les prodiges. Bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment qu'on peut retrouver dans 1 Corinthiens, sur les dons spirituels, avec les dons de prophétique, les dons de révélation, de discernement des esprits et bien d'autres choses. Mais ne nous laissons pas séduire, ne courons pas aveuglément après les signes, après les miracles, après les prodiges, mais recherchons ardemment le Dieu des miracles. Parce que ça peut amener de la confusion dans nos cœurs, parce qu'il est clair dans la parole que les miracles ne sont pas forcément l'approbation de Dieu sur ces hommes qui se revendiquent apôtres, mais qui ne le sont pas. Une des vertus principales du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. Et je crois que nous devons, si nous devons aspirer à la plénitude du Saint-Esprit, en tout cas je le dis pour ma vie, c'est avant toute chose pour qu'il me conduise dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13 nous dit ceci, c'est Jésus qui parle et il dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Et à propos des faux hommes de Dieu, je voudrais qu'on puisse regarder ce matin, même si on n'en fera pas le tour, qu'on puisse aborder les choses sous deux angles. C'est dans un premier temps, quels sont les signes qui peuvent nous alerter, à quoi peut-on les reconnaître ? Si tant est qu'on puisse les reconnaître, mais on a des indications dans la parole qui nous incitent à être sur nos gardes. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons comment on peut garder nos cœurs de la séduction. Je pense qu'aucun enseignement ou doctrine ne doit être accepté comme étant authentique sur la base du succès, sur la base de la réputation de l'enseignant, des miracles, on l'a vu, qui accompagnent son enseignement, ou même d'une apparente onction. Tout enseignement doit être éprouvé par la révélation de la vérité de Dieu dans les Écritures. Les signes extérieurs ne sont manifestement pas une approbation automatique de Dieu. Il y a un passage, on va lire la suite de ce chapitre 7, à partir du verset 21, donc chapitre 7 de Matthieu, et un passage qui est bien connu, mais qui doit, là encore, nous alerter. Donc le Seigneur met en garde contre les faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Elle dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est certainement un des passages les plus connus, en tout cas le plus marquant, sur l'avertissement que nous a laissé Jésus. Quand on lit dans les évangiles, à de très nombreuses reprises, Jésus avertit ses disciples d'être vigilants contre les hommes religieux, contre la séduction, contre les signes de ces faux prophètes. Et on le retrouve de manière très récurrente dans les évangiles. Un des premiers signes, ou une des premières alertes qu'on peut avoir, et qui me paraît bien évidemment importante, c'est de discerner à quel niveau ces hommes-là se basent sur l'Écriture. Cela sous-entend que nous ne devons pas, j'allais dire, gober naïvement tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, mais le passer au crible de la parole de Dieu. Il peut y avoir des enseignants qui sont de beaux orateurs, qui ont la plume très facile, mais si on passe au tamis de la parole, si on compare les choses, c'est la première, j'irais, chose que nous devons faire. Est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils enseignent que les textes originaux, que la parole de Dieu est authentique, qu'elle est pleinement inspirée de Dieu et que par conséquent, nous devons nous y soumettre entièrement? Il y a, vous savez, on entend souvent cette métaphore, les gens qui utilisent la parole de Dieu avec une paire de ciseaux. Hein. Je crois que l'image est assez explicite. On prend la parole et puis ça on découpe parce que tout compte fait, ça nous dérange un peu. Et puis ça, oui, mais ça c'était pour l'époque de Jésus, puis ça c'était pour l'époque du peuple d'Israël, et puis ça, puis on se retrouve en fait avec une Bible light parce qu'on a tellement découpé qu'il n'y a plus grand-chose. Et on a même, je l'ai déjà évoqué à certaines reprises, on a même aujourd'hui des enseignants dans le milieu évangélique qui remettent en cause un certain nombre de textes de l'Ancien Testament sur le déluge, sur la création, sur... Et ce sont des courants qui sont... Je parle bien de milieu évangélique, je ne parle pas de philosophie mondaine, je ne parle pas de l'évolution où là on sait que les gens sont dans l'erreur. Et ce sont des choses qui sont là, qui sont rampantes. Remettre en cause une infime partie de la Bible, c'est remettre en cause l'ensemble de la parole de Dieu. Soit on considère qu'elle est totalement inspirée de Dieu, et si je commence à en enlever une infime portion, ça veut dire que je ne reconnais plus Dieu comme ayant inspiré la totalité de la parole de Dieu. C'est un des premiers signes qui me paraît important. Un deuxième signe qui peut nous alerter, c'est de faire un zoom, un focus sur la manière dont ces gens-là annoncent et proclament le salut. Annoncer un salut et une grâce bon marché, sans tenir compte de la nécessité de passer par une réelle repentance, de nous séparer de l'immoralité, de marcher fidèlement avec Dieu, est contraire à l'enseignement du Seigneur. Et je vous accorde qu'il est plus facile et confortable, peut-être, et populaire d'annoncer, entre guillemets, un bon Dieu. Il aime tout le monde, ben oui, de toute façon, venez à lui, il va régler vos problèmes. Et par-dessus tout, pourquoi pas nous assurer une prospérité matérielle? C'est certainement plus facile de faire adhérer un certain nombre de personnes à ces discours que d'annoncer qu'il est nécessaire de plier le genou, de s'humilier, de reconnaître notre rébellion pour à ce moment-là bénéficier de cette grâce merveilleuse en Jésus-Christ. Mais c'est le passage incontournable. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, juste avant le texte qu'on a lu sur les faux prophètes, comme quoi tout se tient, il dit ceci, « Entrez par la porte étroite ». Ce n'est pas un hasard si Jésus parle de ça juste avant de parler et d'avertir sur les faux prophètes. Verset 13 de ce chapitre 7, Jésus dit « Entrez par la porte étroite. » Car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et juste derrière, il enchaîne avec la venue des faux prophètes qui se déguisent en brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. J'ai mis dans mes notes « tolérance zéro avec le péché ». Tolérance zéro avec le péché. On ne peut pas être dans une demi-mesure, on ne peut pas être à 99,9% et puis garder un tout petit peu de... Non, la parole est claire et je crois que l'annonce du salut doit être aussi claire et limpide que ça. Et bien évidemment, on se doit, en tant que chrétien, d'accueillir, d'aimer, d'avoir compassion pour le pécheur. Le but n'est pas de rejeter le pécheur, mais de dénoncer clairement le péché. Je vous invite à faire une autre lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, et les versets 6 à 10. Paul écrit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, et permettez-moi de me l'approprier, si moi-même vous annoncez un évangile s'écartant de celui qui a été prêché et qui est annoncé dans la parole, alors Paul dit qu'il soit anathème. Anathème, c'est voué au malheur, c'est voué à la destruction sans espoir de rachat. C'est une condamnation intransigeante sur ces personnes-là. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Celui qui enseigne ne doit pas chercher ou ne doit pas avoir comme objectif et comme ambition de trouver la faveur des hommes, mais celle de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer le balancier dans l'autre sens, hein, et volontairement se mettre à dos tout le monde ou être dans la provocation. La parole est très équilibrée, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Mais en annonçant la parole et en cherchant la vérité, en proclamant la vérité, alors nous ne devons pas chercher, et les hommes de Dieu, particulièrement ceux qui enseignent, ne doivent pas chercher à plaire aux hommes, mais à trouver la faveur de Dieu. Un troisième aspect, un troisième point qui peut nous alerter, leur discours, leur enseignement, est-il pleinement centré sur Christ ? Dieu est-il sincèrement glorifié et honoré ? Pas que de la bouche et des lèvres, ou de la plume pour ceux qui écrivent, mais authentiquement dans leur vie et dans leurs actes. Ésaïe chapitre 42, verset 8 nous dit ceci, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et certains courants de pensée poussent à mettre l'homme et ses capacités comme acteur principal à l'établissement d'un monde meilleur. Je vais en évoquer quelques-uns, je ne pourrai pas développer de manière très large, mais je pense que c'est bien aussi de connaître ces courants de pensée. Le premier que je voudrais évoquer, c'est le New Age, ou le Nouvel Âge en français. Ne voulant être ni une religion ni une secte, le Nouvel Âge se présente comme un mouvement spiritualiste dont l'ambition est tout à la fois politique et religieuse. Établir un gouvernement mondial de justice et de paix sous l'autorité du Messie revenu. Oh, bah, tout compte fait, c'est pas si mal que ça, quand même. Établir un gouvernement mondial de justice et de paix qui n'en a pas envie, sous l'autorité du Messie revenu, en plus. Ne soyons pas dupes. D'abord, c'est Dieu lui-même qui établira son royaume. C'est pas à nous d'établir, quand Jésus sera revenu, d'établir le royaume. C'est Dieu qui établira le royaume. Et puis, quand il est question du Messie ici, quand vous creusez un petit peu cette notion du Messie, dans le New Age, le Messie, c'est un faux Christ. Car pour le Nouvel Âge, le Christ est un principe cosmique. Il est présent dans toutes les religions et dans toutes les philosophies. Le Christ est distinct de Jésus, dans lequel ils reconnaissent que le Christ s'est incarné dans Jésus, mais il s'est aussi incarné dans Bouddha, il s'est incarné dans Krishna, il s'est incarné dans Rama, dans Mitra, qui sont des divinités paniennes, et ainsi de suite. Paul Rank, qui est un évangélique, qui est fondateur de Vigisecte, pour ceux qui connaissent, hein, Vigisecte, c'est une organisation qui œuvre à dénoncer les agissements sectaires de certaines organisations, et il écrit ceci à propos du Nouvel Âge, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une organisation, c'est un système multiforme, multiserpent, qui s'adapte à tout. Quelque chose qui rentre comme ça, qui rentre dans les esprits, ce n'est pas palpable. Il est insaisissable et tolérant, sauf pour la vérité. Il n'a ni couleur politique ni religion. Il est un mode de pensée, une disposition d'esprit qui envahit le monde entier. C'est un nuage qui change de forme au gré du vent. C'est un phénomène d'envergure mondiale dont les objectifs serait ni plus ni moins que de régler tous les problèmes de la terre. Et c'est en elle-même que l'humanité devrait puiser les ressources pour atteindre ce but, pour faire naître une ère nouvelle, un nouvel âge. Ben oui, ben, enfin, c'est quoi le problème? Oui, bien sûr, il y a des divinités, mais une fois qu'on enlève ça, à côté de ça, c'est quoi le problème d'aller chercher ce qui est bon dans l'homme pour faire du bien autour de soi? Parce que si on regarde, hein, le paquet cadeau, il est plutôt louable. Bien sûr que la Bible nous enseigne à faire le bien chaque fois que c'est possible, ça, c'est pas un problème, et je vous encourage, chaque fois que c'est possible, à faire le bien. Mais ça ne rend pas pour autant l'homme juste devant Dieu, et c'est pas pour autant que le monde est meilleur, et c'est pas pour autant que l'homme est transformé et que l'humanité est transformée. Cet esprit pousse à croire que l'on peut s'en sortir sans Dieu et glorifie l'homme au lieu de glorifier Dieu. Et puis, accessoirement, comme on a pris soin de faire le bien, forcément Dieu nous accueillera parce qu'il est tellement bon que moi j'ai passé ma vie à faire du bien autour de moi, il est tellement bon qu'il ne va pas faire autrement que de m'accueillir dans son paradis. Et on occulte bien évidemment le salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul rappelait aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché, tous les hommes ont péché, la sentence est implacable, nous sommes privés de la gloire de Dieu. » Mais nous n'en restons pas là, heureusement, ils sont, nous pouvons, nous sommes, si nous le souhaitons, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen, et non pas par le bien, parce que nous allons pouvoir faire, par les bonnes valeurs, par la bonne moralité. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Un autre courant de pensée, l'humanisme, courant de pensée qui s'est développé au moment de la Renaissance, et là encore, vous allez voir, le paquet cadeau, il est plutôt pas mal, hein. Entre autres objectifs, ce mouvement à l'origine prônait la vulgarisation de tous les savoirs, dont le savoir religieux et la parole de Dieu devaient être accessibles à toute personne, quelle que soit ses origines ou sa langue. Bah oui, bah de quoi tu te plains? C'est quand même bien, ils ont tout fait pour que la Bible soit accessible. Oui, mais attendez, ça se gâte un peu. L'individu correctement instruit reste à ce moment-là libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Voilà. Je donne tout sur un plateau, tu choisis ce qui te va bien et puis tu es libre. L'humanisme place sa confiance dans la nature humaine et veut rendre l'humanité meilleure. Je ne sais pas si vous faites le même diagnostic que moi. Hein. Je ne voudrais pas frustrer s'il y a des humanistes dans la salle. Hein. Voilà, une fois de plus, ce n'est pas une affaire de personne. Mais en tout cas, moi, le diagnostic que je fais, si c'était vrai, ça se verrait. Parce que franchement, voilà, j'ai 50 ans, il y a des plus âgés, mais il n'y a pas besoin d'être très vieux pour voir que l'humanité, elle ne va pas en s'améliorant. En tout cas, ce n'est pas du tout l'impression que j'en ai, et je pense, et j'en suis certain, que ce n'est pas en tout cas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Rapidement, un autre courant de pensée, l'église de Scientologie, alors qui est aujourd'hui considérée comme une secte, mais vous allez voir là encore comment les choses sont rampantes. Elle se décrit comme ceci, l'homme est un être spirituel immortel. Son expérience dépasse la durée d'une seule vie. La Scientologie affirme que l'homme est fondamentalement bon et que son salut spirituel dépend de lui-même. Oui, ça dépend de nous d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Ça ne dépend pas de nous de savoir ce que nous allons pouvoir faire à notre niveau pour être sauvés. La Scientologie fournit à l'individu une voie précise menant à une compréhension totale de sa vraie nature spirituelle et des rapports qu'il entretient avec lui-même, avec sa famille, avec l'humanité. Donc vous voyez ce mélange de choses qui sont pour certaines en partie vraies et puis mêlées à du mensonge. L'importance de discerner le vrai du faux. Et tous ces courants de pensée, on pourrait en évoquer d'autres, je ne vais pas m'y étendre davantage ce matin, tous ces courants de pensée ont plusieurs points communs. Ils ont tous une dimension spirituelle. Et l'homme, la femme, l'humain, a soif de spiritualité. Nous avons tous soif de spiritualité. Et tous ces courants s'appuient et ont une dimension spirituelle. Ils ont pour socle ou pour fondement, dans la plupart des cas, des actions qui sont a priori plutôt honorables. Faire du bien, amener la paix, amener la justice sur la terre. Mais qui n'a pas soif de justice? Donc forcément, il y a un emballage qui est plutôt attrayant. Mais systématiquement, au lieu d'être centré sur Christ, il glorifie l'humain au lieu de glorifier Dieu. Et ils occultent systématiquement le fait que l'homme est pécheur et a besoin du salut offert en Jésus-Christ. Alors, vous allez peut-être me dire, mais quel rapport avec les faux prophètes? Quel rapport? Ces influences, il ne faut pas se leurrer, ces influences sont de plus en plus présentes. Dans le monde, on le sait, ce n'est pas surprenant. Mais elles sont de plus en plus présentes dans les milieux évangéliques. Et font tranquillement leur chemin. Le culte de la personnalité. On a tous, et oui, là encore, la parole le dit, Dieu a donné à chacun des talents, ce n'est pas un problème. On a tous été construits, on est tous des êtres merveilleux, on a des talents, on a des belles choses que Dieu nous a données, mais pas pour nous glorifier, pas pour en nous valoriser, pour glorifier le Créateur. Je lisais récemment un article avec tristesse, écrit par un pasteur évangélique, professeur de théologie en institut biblique, et qui citait, je pense qu'il y a franchement, ça n'engage que lui, mais en tout cas, voilà, je vous livre un peu ce matin mon cœur. Moi, ce n'est pas l'exemple que j'aurais pris, ça c'est évident. Il citait un rappeur, un converti, hein, quand on sait déjà l'esprit qui anime ces gens-là en général, et qui attribue son propre succès au fait qu'il croit en ses rêves, et d'ajouter, il a de la chance de faire des rêves et encore plus de les voir se réaliser. J'étais attristé parce que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu et je veux rester équilibré. Je ne suis pas un fanatique, je ne pense pas. Si c'est le cas, venez me le dire. Hein. Je suis prêt à l'entendre. Je ne pense pas avoir perdu la raison. Et ce n'est pas un péché d'avoir des rêves. Que je me fasse bien comprendre, ce n'est pas un péché d'avoir des rêves, mais ça peut le devenir de s'obstiner, si ça n'est pas la volonté de Dieu, et de persister dans une voie contraire à sa volonté. Il n'est pas anti-biblique d'avoir des aspirations, d'avoir des choses à cœur, d'avoir des projets, mais n'inversons pas le cours des choses que Dieu a établies. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, un passage qui est là aussi bien connu des chrétiens, mais qu'il est peut-être important de reprendre dans le vrai sens. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, moi souvent ce verset-là, je le prends, « Oui, Seigneur, je sais que tu as des projets de paix et non de malheur. » Donc ça me rassure. Et c'est bien, c'est bien. Oui, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Mais la première chose, c'est je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu ne dit pas je connais tes projets et tes rêves et je vais faire en sorte que ça te conduise dans la paix et pas dans le malheur. Mais il nous dit qu'il a formé des projets bien précis pour chacun de ses enfants. Alors c'est vrai que c'est parfois plus simple ou plus rapide de donner libre cours à nos propres plans que de passer du temps à rechercher la volonté de Dieu à notre égard. Mais ne soyons pas surpris à ce moment-là que le Seigneur ne nous suive pas dans nos affaires. Et je dirais même, persistons dans nos rêves et dans nos projets et nous risquons de passer à côté de choses bien plus grandes que le Seigneur avait en réserve pour nous. Il ne force personne. Ben écoute, tu veux persister dans ta voie, vas-y. Mais si tu te casses la figure, ne te plains pas. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que le Seigneur, il avait prévu bien d'autres choses. Bien d'autres choses avec une dimension nettement différente. Proverbe chapitre 19, verset 21. Les proverbes parlent beaucoup des projets des hommes, des projets de Dieu, du dessein de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oula, oui, et une fois de plus. Une fois de plus, ne marchons pas aveuglément en disant « De toute façon, il ne faut plus avoir de projet, donc moi, je prévois plus rien parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas avoir de projet. » Non, 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 non. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Soyons extrêmement vigilants quant aux enseignements ou aux encouragements qui nous incitent à chérir nos rêves et à nous y accrocher coûte que coûte. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Il ne m'appartient plus, tout ce que j'ai de meilleur. Prends tout, prends ma vie, prends mon âme, prends mon cœur. On a oublié, prends mes rêves, prends mes projets, prends mes ambitions, prends. Et puis de temps en temps, quand on se retrouve et qu'on se pose, si on commence à faire une petite liste et à cocher, on dit « Oh tiens, ça, j'ai oublié de le laisser au Seigneur ». Je lui dis de tout prendre, c'est facile de le chanter, mais quand on se rend compte parfois qu'on se dit « Mince, tiens, tout ça, je ne suis pas certain d'avoir complètement abandonné au Seigneur » et que vraiment on puisse mettre en pratique ces choses que nous chantons, ces choses que nous lisons, ces choses que nous professons de notre bouche. Alors on a vu qu'il est nécessaire pour quelques signes qui peuvent nous alerter sur ces faux hommes de Dieu, il est nécessaire de discerner sur quel niveau de la parole se base leur enseignement, sur l'annonce du salut, est-ce qu'elle est clairement annoncée ? Avec la nécessité d'une réelle repentance, d'une conversion authentique, est-ce que leur discours est centré entièrement sur Christ ou est-ce que l'homme fait en fait part égale entre Dieu hein ? Bah ouais, écoute Seigneur, tu fais un petit peu, puis moi je fais un peu, puis tous les deux ensemble on va faire un bon binôme. Hein ? Quelques indices supplémentaires que je ne vais pas développer ce matin, mais pour votre réflexion, considérons quelles sont leurs ambitions à ces hommes-là, quand on creuse un petit peu. Quel caractère manifeste-t-il ? Parfois, là aussi, ça me surprend de personnes dites chrétiennes, hein, où on entend, ouais, bon, il a un caractère, il a des fois des caprices de star, vous savez, il y a des gens qui, ouais, mais moi, il me faut une chambre dans un hôtel luxueux, il me faut un machin. Bon, moi, c'est des choses avec lesquelles je suis très mal à l'aise. Pour des gens qui, une fois de plus, hein, si vous prenez une chambre. Voilà, vous faites un voyage de noces, hein, c'est pas un problème d'aller dans une chambre luxueuse. De faire un caprice pour en avoir une, ça commence moi à m'inquiéter un petit peu. Ont-ils revêtu le caractère de Christ ? Sont-ils accessibles à tous ? Aux plus petits, aux plus faibles, aux plus simples ? Ou sont-ils réservés à des cercles restreints ? Quel est leur rapport avec l'argent ? Avec les biens matériels ? Autant de points qu'on peut voilà, étudier un peu plus précisément, qui nous donnent, en tout cas je pense, la qualité du fruit de ces hommes-là. Le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est comment garder nos cœurs de la séduction de ces faux hommes de Dieu. Parce que discerner le vrai du faux, je pense que ça deviendra dans certains cas de plus en plus difficile, parce que l'extérieur et l'apparence sera belle. Et avant de savoir comment garder nos cœurs de la séduction, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi de tels hommes de Dieu peuvent nous attirer. À la base, je pense que s'il y a dans notre vie un manque spirituel qui n'est pas comblé, une quête qui peut être légitime, hein, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas un jugement, une condamnation. Il peut y avoir un manque spirituel dans notre vie, une quête légitime de vivre une autre dimension de la vie chrétienne, alors nous allons commencer à chercher ce qui pourrait bien nous aider à aller plus loin. Jusque-là, ce n'est pas un problème, bien au contraire. Le risque, c'est que si nous cherchons en dehors des Écritures et que nous commençons à regarder à droite et à gauche ce qui pourrait nous satisfaire, alors là, le terrain devient favorable et sensible à la séduction. Les anciens, mes parents, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, qui ont 80 ans aujourd'hui, ou là, ma grand-mère, je ne sais pas si l'expression se dit encore aujourd'hui, je te vois venir avec tes gros sabots. Hein ? Quand on voit quelqu'un qui veut nous faire une blague, ou « Oh non, mais attends, je te vois venir, toi, avec tes gros sabots », le malin, il ne vient pas comme ça. Le malin, il ne vient pas comme ça. Et dans les textes où le Seigneur nous avertit, ce serait bien trop facile, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, ben, non, mais attends, c'est bien évident. La séduction est là de propre qu'il y a toujours une part de vrai qui peut être importante. Dans la séduction, quand un homme essaye de séduire une jeune fille, la séduction, elle va montrer la belle facette. Elle ne va pas montrer le mauvais caractère, elle ne va pas montrer le linge sale qui traîne par terre, elle ne va pas montrer il est ronchon quand il se réveille. Et, bah, le séducteur, il va faire quoi pour séduire? Il va montrer la belle facette. Et il y a toujours une part de vrai. Mais pas que. La séduction, elle met en avant ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui frappe l'œil. Elle joue sur les sentiments. Mais elle dissimule ce qui est moins beau. Et puis elle va facilement user de ce qui flatte notre ego. Parce que pour faire adhérer quelqu'un, on va bien évidemment essayer de lui dire ah, ouais, t'es beau, ouais, tu me plais, ouais, c'est bien. Bah oui, c'est plus facile pour séduire que de faire du rentre-dedans. C'est évident. Et notre chair va être attirée naturellement par des critères rationnels ou moins rationnels, des signes extérieurs, d'autant plus si ça relève du surnaturel. On va être attiré par la renommée, on va être attiré par l'éloquence. Ah ouais, il est connu, ouais, il prêche dans le monde entier, ouais, il remplit des salles, des stades. Et je ne dis pas, attention, il y a de véritables hommes de Dieu qui remplissent de grandes salles. Hein. Ne me faites pas dire le contraire. Je suis en train de dire, soyons attentifs à certains signes. Mais si nos cœurs ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, alors nous pouvons facilement nous laisser avoir, parce qu'il y a toujours ce manque. Mais le manque spirituel doit être et ne peut être comblé que par du spirituel. Le manque spirituel ne peut pas être comblé par de l'émotionnel, parce que ça ne durera pas. Et c'est Dieu seul, en grandissant nous, qui pourra combler ce manque de façon durable. Alors, quelques pistes pour nous préserver de la séduction. Il y en a une, on le dit ou ouais, on redit, je pense, assez souvent, mais là encore, c'est biblique, donc je pense qu'il est bon de le rappeler ce matin. Il est indispensable pour chaque homme, pour chaque femme chrétien, pour chaque serviteur de Dieu, et je me l'applique. C'est important de pouvoir partager avec un frère, avec un responsable, avec un frère, une sœur aînée dans la foi, et d'accepter d'avancer au regard de la parole de Dieu. Une fois de plus, de faire le constat que dans notre vie, on a un manque spirituel, on est en quête d'autre chose, d'une dimension, d'une relation avec Dieu, et d'aller plus loin. Merci Seigneur, et qu'il nous donne cette soif-là grandissante dans notre cœur. Mais n'oublions pas que l'Église, la famille, elle est formée aussi d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, d'aînés dans la foi qui nous ont précédés, et qu'une des premières choses, c'est d'aller vers les frères, vers les sœurs, en disant, voilà, je voudrais te partager quelque chose, voilà les pensées, voilà ce que je vis, voilà ce que... Et au regard de la parole de Dieu, on va avancer ensemble, on va prier, on va... Et ça va aussi nous préserver d'aller chercher à droite, à gauche, et d'aller picorer, d'aller grappiller des choses qui risquent d'être mauvaises. D'accepter que nous sommes en marche et que le timing de Dieu n'est pas le nôtre. L'Ecclésiaste écrit dans le chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » N'essayons pas de brûler les étapes, mais sachons avancer au rythme du Seigneur. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, je ne sais pas vous si c'était comme ça, mais quand on est enfant, on a envie de grandir vite. Alors, quand on est tout petit, on a un petit peu de mal à comprendre. On a 3, 4, 5 ans, puis celui qui est au-dessus, il a 6, 7 ans, et on se demande si un jour on arrivera à rattraper. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu simpliste, hein, mais des fois on a des pensées un petit peu comme ça, parce que l'échelle des âges, quand on est tout petit, elle est... Mais on a envie de brûler, puis d'agrandir, et puis ouais, moi, quand je serai grand, je ferai ça. Et puis quand on est ado, on dit, ouais, mais quand je serai majeur, je ferai ça. Et dans la vie spirituelle, quand on rencontre le Seigneur, on a, et c'est légitime, parfois envie d'avancer vite et de comprendre et de savoir. Et là encore, ce n'est pas un mal en soi, mais acceptons de marcher au rythme de Dieu. S'il devait, le jour où nous convertissons, nous charger de tout ce que nous allons vivre dans notre vie avec le Seigneur, enfin, moi pour ma part, je pense que je n'aurais pas tenu le coup. Et si le Seigneur permet des temps dans la marche, permet un apprentissage, c'est parce qu'il sait de quoi nous sommes faits et il permet que nous avancions à son rythme, et je crois qu'il faut l'accepter. Il faut garder cette soif, il ne faut pas l'éteindre. Mais il faut dire, oui Seigneur, j'accepte de pas tout comprendre, j'accepte de passer par ce temps-là, j'accepte que ben voilà, je ne vis pas encore aujourd'hui une dimension que tu veux me donner, mais je crois, Seigneur, que tu vas me la donner en ton temps, parce que tu donnes toutes, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Un autre point qui est important, ne jouons pas avec la séduction. La séduction peut devenir un jeu. Je parlais de l'homme qui essaye de séduire une femme, parfois c'est l'inverse. Hein. Et ça peut devenir un jeu, et puis on se dit, ben tiens, je vais rentrer un petit peu dans le jeu-là pour m'amuser. Ouais, je vois bien que c'est trop beau pour que ce soit vrai, mais ouais, j'ai envie d'y croire un petit peu quand même. Et puis on met le doigt dans l'engrenage. Et le Seigneur disait à son peuple, dans Deutéronome chapitre 11, il parlait au peuple d'Israël avant de conquérir le pays de Canaan, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. » Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Paul écrit aussi « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » J'en parlais l'autre soir à la réunion de maison. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Je ne sais pas le bien le plus précieux que vous avez chez vous. Si vous avez des objets de valeur, les gens qui ont de grandes valeurs, ils les mettent dans un coffre-fort, ils les mettent à la banque, ils en prennent soin. Et la Bible nous enseigne à garder notre cœur plus que toute autre chose, plus que les richesses que nous pourrions avoir. Veillons sur notre cœur et n'acceptons pas de nous laisser séduire et de rentrer dans le jeu de la séduction. Une autre piste que nous pouvons étudier pour nous préserver de la séduction, n'acceptons pas d'enseignement en contradiction, même partielle, avec la parole de Dieu. C'est elle seule qui doit faire autorité dans nos vies et nous devons rechercher ardemment la vérité par la révélation que l'Esprit de Dieu nous donne de sa parole. Et là, il n'est pas question de se mettre au-dessus des autres en disant voilà, moi, j'ai la parole, moi, je sais. Non, gardons dans notre cœur un terrain malléable, une terre fertile où, au bout de 5 ans, 10 ans, 25, 50 ans, où nous allons lire la parole de Dieu, on va continuer à être enseigné, à découvrir les richesses, à dire ouais, Seigneur, ce verset-là, je l'ai lu 50 fois. Et là, tu me donnes un éclairage nouveau. Mais appuyons-nous uniquement sur la parole. Et il n'est pas question de connaissances intellectuelles, mais d'une sensibilité au Saint-Esprit dans notre vie pour comprendre et saisir les Écritures. Jésus lui-même disait « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alors peut-être certains se disent « Ouais, mais moi j'ai des difficultés, quand je lis la Bible, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Ben, je vais vous rassurer, moi c'est pareil. » Alors ça ne va peut-être pas vous rassurer, j'en sais rien. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais Seigneur, j'accepte d'avancer. J'accepte de dire « Ben oui, aujourd'hui je ne comprends pas. » Et il y a des versets que j'ai lus, que j'ai relus et que j'ai essayé. Et puis un jour, le Seigneur il donne la révélation. Peut-être à un moment où on ne s'y attend même pas. Et puis notre intelligence s'ouvre parce que Dieu nous révèle les choses. Lisons la parole dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur. Alors en conclusion, tout cela n'est pas forcément populaire. Il y en a qui vont peut-être penser, mais ça c'est pas important. Qu'est-ce qu'il est conservateur? Il faut évoluer avec son temps. On est au 21e siècle. Les choses avancent. Il faut... Moi, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, Dieu ne change pas. On dit souvent, Dieu est le même, il ne change pas. Alors, je me dis, si Dieu ne change pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait que nous, on change? Dieu ne change pas, mais nous, il faut qu'on évolue. Moi, je préfère essayer de rester simple. Ben, si je suis conservateur, que soit conservateur de la parole de Dieu, le Seigneur lui-même met son peuple en garde contre ces faux hommes de Dieu, ces lourds ravisseurs, et nous exhorte à veiller sur nos cœurs. Et si on reprend la fin de ce chapitre 7 de Matthieu, Matthieu chapitre 7, et on va prendre au verset 24, on a lu une première partie où le Seigneur nous enseigne qu'il faut entrer par la porte étroite. Ensuite, il nous met en garde contre les faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Et tout de suite derrière, au verset 24, Matthieu chapitre 7, verset 24, il nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles » ce qu'il vient de dire juste avant, sur les mises en garde. « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses paroles, ses discours, pardon, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Là encore, s'il fallait faire le lien avec les faux prophètes et ceux qui avaient une belle apparence, mais dont le cœur était mauvais. Il y a un point commun entre la contrefaçon que j'évoquais en introduction et la séduction des messages tronqués de ces faux hommes de Dieu. Ce point commun dans les deux cas, c'est qu'on veut l'authentique, on veut l'original, mais sans en payer le véritable prix. Quand on achète une copie, quand on achète un faux, généralement ce qui est copié, ce n'est pas ce qui a peu de valeur. Les gens qui font de la contrefaçon le savent bien, ils vont copier ce qui a de la valeur, de la marque. Et quand on est tenté, oui, non, mais je sais, mais je vais acheter de la contrefaçon, c'est parce qu'on veut l'authentique, mais on ne veut pas en payer le prix. Et la séduction de ces messages tronqués, c'est la même chose. On veut de l'authentique, on veut de l'original, on veut une vie avec Dieu, mais on ne veut pas en payer le prix. Alors, pour conclure, comme David, que nous puissions faire cette prière, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le chemin étroit, mais comme le dit souvent Robert, étroit mais praticable. Étroit mais praticable. Alors que nous puissions vraiment nous tenir devant Dieu, oui Seigneur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.
Amen. Amen.
Merci Seigneur, parce que tu nous as laissé ta parole pour nous conduire sur le chemin, pour connaître ta volonté, ton plan pour nos vies. Nous avons tout pleinement en toi, nous avons tout pleinement Jésus-Christ, nous avons tout pleinement dans ta parole. Pardon Seigneur pour les fois où nous sommes tentés d'aller chercher ailleurs, dans des philosophies, dans des méthodes, dans des organisations, alors que tu veux conduire nos vies par ton Saint-Esprit. Tu veux prendre les choses en main, Seigneur. Et je te prie vraiment que nos vies puissent être malléables entre tes mains, que nous soyons gardés de ces temps de séduction qui viennent sur le monde, que ton esprit atteste à notre cœur là où est la vérité, là où est le mensonge, que nous sachions, oui, comme nous l'avons entendu, discerner le vrai du faux, pour ne pas nous laisser emporter par des choses apparentes, par des choses extérieures qui pourraient nous faire croire que tu es là, alors que ce sont des loups ravisseurs. Merci de garder nos cœurs, merci de garder l'Église des loups ravisseurs, Seigneur. Que ton esprit, au travers aussi les dons que tu veux déverser, nous permette de discerner les esprits et que nous soyons gardés, purs, sans aucun mélange, sans compromis, pour le jour où tu viendras chercher ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole.